avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous du médiateur peu après 13h20 avec aujourd'hui Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Dans l'actualité des idées, une ambition francophone sollicitant l'aide et la vision d'écrivains comme Leïla Slimani et Alain Mabankou. Emmanuel Macron a porté la sienne de vision et d'ambition à Ouagadougou, le Burkina Faso où il était en visite fin novembre dernier.
Je lui ai demandé aussi, en s'entourant de plusieurs intellectuels africains, je pense notamment à Alain Mabankou, de réfléchir à un nouveau projet pour la francophonie, pour en faire un outil de rayonnement culturel pour la création africaine, un instrument au service de l'intégration économique. C'est cette ambition que nous devons avoir pour la francophonie. La lutte pour la francophonie, c'est la volonté de réinventer dans cette langue que nous avons en commun, un avenir heureux, là où nous aurions pu n'avoir qu'un passé fait de traumatismes. C'est cette volonté de dire, nous avons des formidables opportunités de richesses culturelles, de création, d'imaginaire en commun, mais aussi d'opportunités économiques, parce que nous aurons un espace linguistique d'une puissance inédite à travers tous les continents et au premier chef, en Afrique. Se renfermer sur telle ou telle langue, refuser la langue française ou avoir un effet de mode pour la langue anglaise dans le continent africain, c'est ne pas regarder l'avenir. Le français, ce sera la première langue de l'Afrique et peut-être du monde, si nous savons faire, dans les prochaines décennies. Prenons ce défi ensemble. Allons-y, portons-le.
Sauf que le renouveau de la francophonie ne passera pas par lui. Prix Renaudot pour son roman Mémoire de Porc-Épic, l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou a refusé l'invitation d'Emmanuel Macron à participer à un travail de réflexion autour de la langue française et de la francophonie, jugeant hypocrite la francophonie institutionnelle qui n'a jamais pointé du doigt les régimes autoritaires en Afrique et qui reste perçue, je le cite, comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Dans une tribune parue dans l'Obs, la romancière franco-ivoirienne Véronique Tadjo, grand prix de la littérature d'Afrique noire, auteur de Rennes Poukou, et de Loin de mon père, prend position de son côté pour une francophonie agissante. Alors agissante, le mot nous a plus qu'intrigué. On lui a demandé de venir s'en expliquer, ou plutôt de nous expliquer ce qu'elle entend par agissante. Véronique Tadjo, bonjour.
Oui, bonjour.
Une francophonie agissante. Agir pour quoi? Est-ce que vous privilégiez ou défendez une lecture politique ou linguistique de la francophonie d'abord?
Bon, je pense que, il y a un peu des deux. Mais disons que moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la langue française, c'est-à-dire le niveau de cette langue qui a énormément baissé en Afrique. Et donc, je m'inquiète parce que, du coup, le système éducatif est aussi touché. Et donc, on a des problèmes de formation déjà des formateurs, c'est-à-dire des enseignants, et ensuite des étudiants. Et donc, je trouve que c'est un constat d'échec et il faut vraiment réfléchir à faire quelque chose de profond.
Le français, une langue menacée qu'il faudrait protéger en Afrique, mais peut-être aussi partout dans le monde, voire ici dans l'Hexagone.
Oui, parce que j'apprends que le français aussi, il y a des problèmes même en France.
On a une académie qui veille. Hein,
voilà, c'est cas, ça. Mais, c'est ça. Mais moi, je pense plutôt aux écoles, aux universités.
Pourquoi ça baisse finalement le niveau d'enseignement du français ou le niveau d'expression?
Bon, si je me réfère à l'Afrique, encore, c'est que nous avons souvent d'énormes problèmes de mouvements politiques, de crises financières, des crises économiques, et tout cela sape évidemment le système éducatif, parce que bon. Non seulement, par exemple, on prend au niveau de l'université, bien souvent il y a des années blanches, comme on dit, des années où il n'y a pas eu suffisamment de cours, et il y a des troubles politiques, donc rien ne fonctionne, et tout ça, je pense, fait beaucoup de mal à l'enseignement.
C'est intéressant, il y a 10 ans déjà, dans Libération, vous disiez « Je me rends compte aujourd'hui que la plupart des gouvernements africains francophones ont fait une grave erreur en choisissant le français comme langue officielle unique. Pourquoi ?»
Oui, parce que en fait, le français devrait pouvoir cohabiter avec les autres langues que l'on trouve en Afrique, les langues nationales. Parce que on se rend compte que si on faisait par exemple un enseignement au niveau primaire, en langue nationale, eh bien, je crois que les enfants acquériraient des concepts beaucoup plus tôt et dans leur langue maternelle. Et je crois, par la suite, ils pourraient ensuite avoir l'apprentissage du français dans de meilleures conditions. Ça se fait dans d'autres pays, mais je pense que je ne sais pas pourquoi les pays francophones
ça paraît paradoxal, tardent à le faire. Ouais, ça paraît paradoxal de se dire que le français, pour vous, est une langue menacée aujourd'hui et que ce choix unique fait par des gouvernements africains francophones peut porter préjudice à cette langue. Mais c'est assez intéressant, cette manière dont vous avez de l'expliquer, que devenant langue maternelle, le français est mal enseigné, du coup, est mal parlé, mal défendu, finalement, quelque part.
Oui, c'est presque une trahison, puisque c'est quand même une langue qui a une importance énorme. Elle est, comme je l'ai dit, dans l'enseignement, elle est à la justice, on l'utilise dans la justice, on l'utilise dans l'administration, on l'utilise pour trouver du travail, et donc à partir du moment où on a des jeunes qui sortent et qui ne sont pas bien formés, automatiquement leur avenir est en danger.
Donc quelque part, Emmanuel Macron aurait raison de plaider pour une francophonie offensive, si on vous entend bien, avec ce français en perdition un peu partout dans le monde. De 275 millions de locuteurs actuellement, Paris en voudrait le triple à l'horizon 2050, selon un communiqué du CESE, pour que de sixième langue parlée dans le monde, le français rejoigne la tête du peloton, voire la première marche. Est-ce que c'est un effet rhétorique pour vous ou une ambition réelle du président ?
C'est un peu un effet rhétorique. Parce que on se base simplement sur le nombre de locuteurs. Et je reviens encore à cette idée que ce n'est pas seulement le nombre de locuteurs qui compte, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce que le français est véritablement une langue qui, si vous voulez, a été jusqu'au bout de sa mission ou de la mission qu'on lui a donnée. Et pour le moment, c'est un peu un contrat d'échec.
Alors, à qui revient-il, pour vous, Véronique Tadjou, de porter la parole du français dans le monde ? Est-ce que c'est aux écrivains ou est-ce que c'est aux politiques ? À la littérature ou à la politique ?
Non, pourquoi ? Il y a tous ces gens qui sont sur le terrain et qui enseignent justement le français. Et donc, je pense que eux aussi, c'est à eux qu'il faut s'adresser également.
Quel est votre différent finalement avec Alain Mabankou précisément ?
Ben simplement, c'est que moi je crois encore en la francophonie. Et je crois vraiment que ça peut être un espace de solidarité. Et je pense que c'est un espace dont on a besoin. Et puis, puisqu'il y a près d'une cinquantaine de pays dans cette francophonie, et je pense que c'est on ne peut pas jeter à la poubelle
Vous n'y voyez pas une politique coloniale par extension, continuation de la politique coloniale.
Si, quelque part oui, mais je réfléchis comme ça, je me dis que on pourrait très bien supprimer la francophonie, ce que je ne souhaite pas bien entendu, et on aurait toujours la France-Afrique. Parce que je pense que c'est un rapport malsain entre la France et ses anciennes colonies et les dirigeants, certains dirigeants de ces anciennes colonies. Et donc, voilà, c'est pas... Il y a un lien, bien sûr, mais ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que...
C'est pas une raison pour ne pas
voilà,
la défendre.
C'est ça, exactement.
Alain Mabankou ne décrète pas la mort ou la fin de la francophonie. En fait, il se dresse contre une francophonie institutionnelle. Le problème, c'est qu'il y voit, lui, une continuation de la politique étrangère de la France, quand elle est portée de la manière que l'a faite Emmanuel Macron, dans ses anciennes colonies. C'est ce qu'il en dit et c'est ce qu'il en redisait aussi au lendemain d'intervention, je vous propose de l'écouter, d'Emmanuel Macron à la Foire du Livre de Francfort.
Je pense qu'il faut considérer la francophonie comme une famille nombreuse. Emmanuel Macron a parlé pendant plus de 40 minutes, mais ce qui m'a gêné, c'est ce qu'il a dit dès le départ en disant « L'Allemagne accueille la France et la francophonie ». Ça veut dire que dans l'esprit du président français, la France n'est pas dans la francophonie et que la francophonie, c'est la cohorte des anciennes colonies, c'est les petits pays des anciennes colonies qui sont là. Et ça, ça m'a fait réfléchir que l'idéal serait de repenser la francophonie et d'éviter que même au sommet de l'État, qu'on puisse avoir des définitions très coloniales de la francophonie. Alors,
avec ça, vous êtes d'accord, Véronique Tadjot ?
Oui, c'est-à-dire la grande question, c'est la France est-elle un pays francophone ? Voilà, c'est ça la question. Mais il y a toutes sortes de nuances. Je veux dire, on ne peut pas aller jusqu'à faire que la francophonie devienne française. Je ne sais pas si vous voyez cette nuance.
Pas vraiment, non.
Pas vraiment, non. C'est-à-dire que la francophonie elle-même est dans la diversité. Hein, et
vous vous dites que c'est la langue française et ça n'a rien à voir avec les pays. En fait, il faut la considérer comme une langue qui appartient finalement à ceux qui veulent la parler.
Exactement. Mmh. C'est exactement cela. Et donc, elle n'est pas forcément liée intimement à la France. Mmh. Et ça, il faut qu'on le sache. Et donc, qu'on enlève tous les doutes à ce sujet-là et qu'on n'en vienne pas à vouloir intégrer la France, si vous voulez, et à laisser cette francophonie de côté.
Or, aujourd'hui, vous diriez que la France a encore le monopole de la francophonie ? En tout cas, elle se l'arroche.
Vous voulez dire le monopole du français, mais c'est normalement pas le monopole de la francophonie.
Mais sur la francophonie ?
Sur la francophonie, je pense que la France a encore un gros poids et un gros rôle à jouer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle tient les cartes en main.
Mais elle aimerait bien les tenir.
Non, oui, je veux dire, qu'est-ce que la France a à avoir à faire avec la démocratie, le nombre de locuteurs en Afrique.
Bah, c'est la question que soulève Alain Babancou. C'est est-ce que la France tire aussi ces ficelles-là? Est-ce qu'elle cherche à travers la francophonie à introduire une forme de soft power, de pouvoir doux sur le continent africain aussi et envers ses anciennes colonies? Est-ce que ça reste un levier de pouvoir de la France à l'étranger?
Mais écoutez, ça dépendra des dirigeants que nous avons. Je pense qu'il faut quand même que nous nous regardions en face. Si nous avons des dirigeants qui veulent la France-Afrique, on sera toujours dans la même situation. Mais je ne vois pas pourquoi il ne peut pas y avoir une nouvelle génération de dirigeants qui savent éviter le piège de la France-Afrique et de trouver de meilleures relations d'entente.
Est-ce que ça a commencé?
Oui, je pense que ça a commencé. Bon, je vois par exemple ce qui s'est passé au Burkina Faso où la jeunesse s'est soulevée et a réussi à se débarrasser de Blaise Compaoré. Il y a des mouvements. Je pense que ça viendra beaucoup de la jeunesse. Et je pense que quand ça vient de la jeunesse et que cette jeunesse appuie de son pouvoir contre des régimes dictatoriaux, eh bien, je crois qu'on va avoir un changement. Parce qu'il faut que le changement vienne de l'intérieur. On ne peut pas toujours. Je pense que c'est un mauvais exemple de dire toujours oui, c'est la faute à la France-Afrique, oui, c'est la faute à la France, comme si nous étions des victimes perpétuelles et que nous ne pouvions pas, nous aussi, prendre notre destin en main. Je crois que c'est là où je ne suis pas d'accord.
D'ores et déjà embarqué dans l'aventure, le prix Goncourt 2016, la franco-marocaine Leïla Slimani, si on vous demande de participer à une commission qui aurait pour fonction ou pour mission de porter la francophonie, vous y allez ?
Mais je pense que c'est pas une question de simplement porter la francophonie. Ça dépend de ce qui va être proposé, du type d'ateliers de travail qu'on va demander de faire. C'est à voir. C'est simplement qu'il y a des problèmes qui sont réels et qui demandent des solutions concrètes. Et donc, c'est là-dessus que, là, je suis prête à y aller si vraiment c'est sincère.
Quel est l'avenir du français en Afrique ? On parle de ce gonflement de locuteurs francophones qui pourraient venir dans les années qui viennent et qui viendraient essentiellement d'Afrique. À un moment donné, il y aurait peut-être plus de locuteurs francophones en Afrique qu'en France. Et à ce moment-là, la chose se renverserait potentiellement. Est-ce que vous avez le sentiment que cette perspective-là, même si elle n'est pas au niveau qu'on veut la porter, notamment à l'Élysée, est-ce que cette perspective-là d'une Afrique qui deviendrait un pôle de la francophonie, quantitativement en tout cas, dominant, vous paraît réaliste?
Je veux dire, ce sont les chiffres.
C'est déjà dire, le cas, hein,
à partir du moment où il y a une démographie qui est galopante et qui, voilà, donc ça, on peut rien y faire, hein. C'est pas une question de choix. Donc, ça va se faire, effectivement. Maintenant, encore une fois, est-ce que ces jeunes-là, parce que, voilà, il s'agit de jeunes, vont se sentir trahis par la langue française ou au contraire, vont-ils penser que cette langue-là peut effectivement être une ouverture vers le monde extérieur, peut être un outil de travail, peut les amener à un meilleur avenir? C'est ça la question. C'est quelle est la perception de la langue française aujourd'hui en Afrique?
Alors justement, vous qui êtes une femme de mots, Véronique Tadjo, qui est écrivaine, qu'est-ce que la francophonie exactement? Tout à l'heure, vous parliez d'un espace. La francophonie, c'est pas exactement la même chose que la langue française, simplement un endroit où l'on parlerait la langue française. Qu'est-ce que ça véhicule, la francophonie?
Je pense que la première chose qui nous rassemble, c'est quand même la langue française. Puisqu'on a quand même le Canada, la Belgique, la Suisse et d'autres pays du Nord et un nombre assez grand de pays du Sud. Donc je veux dire, quand moi je rencontre un Togolais ou un Béninois, bon, on se parle en français. Donc il y a quand même déjà ce lien commun qui est celui de la langue. Voilà, mais d'une langue qu'on voudrait émancipatrice, je veux dire qu'on voudrait innovatrice, comme on le dit. Et c'est ça pour le moment qui n'est plus, qui n'existe plus.
Mais émancipatrice de quoi?
Ben, c'est parce que grâce, on va dire, à la langue française, on a quand même accès à pas mal d'idées, puisque c'est une langue internationale. Et donc, ces idées-là nourrissent des espoirs, des attentes, et donc à ce niveau-là, voilà ce que la langue française peut apporter. Je veux dire, on a lu tous les classiques, les écrivains classiques, on les enseigne encore dans les écoles, à l'université, on les étudie, on a la littérature contemporaine française. On en sait beaucoup plus sur vous que vous n'en savez sur nous.
C'est clair. C'est ça le problème aussi.
C'est ça aussi le problème.
Oui.
Uh-huh. Et par exemple, prenons les livres. Prenons les livres qui sont publiés en Afrique. Combien en avez-vous lu? Je vous mets au défi. Parce que déjà, il y a une inégalité entre les possibilités de distribution. Pour que les livres produits en Afrique soient bien distribués en Europe, en France en particulier, c'est très difficile. C'est un véritable parcours du combattant. Mais le contraire, je veux dire, c'est presque tout récemment que on n'a plus été inondé au niveau de l'école par des livres scolaires et des romans et des textes venant de France.
De France. Et c'est aussi ce que soulignait Alain Mabankou, c'est intéressant, après l'intervention d'Emmanuel Macron à la foire du livre de Francfort, c'était de n'avoir cité à propos de francophonie d'ailleurs, ou dans un discours qui comprenait cette question de la francophonie et de la place du livre, et de la littérature, que des écrivains français et non des écrivains francophones d'ailleurs, en fait, qui ne viendraient pas de la France. De n'avoir parlé que de Goethe, ça c'est pour l'Allemagne, et pas de Goethe et de Nerval, et pas d'écrivains qui portent une littérature francophone. Qu'est-ce que c'est exactement cette littérature francophone? C'est aussi la possibilité de porter d'autres imaginaires, Véronique Tadjo?
Absolument. Mais il est bien évident que si vous écrivez sur l'Afrique, ce ne sera pas le même imaginaire que quelqu'un qui écrit en France sur des sujets, j'allais dire, français. Ou je veux dire, il me semble que c'est évident que tout ce qui se passe en Afrique n'est pas pareil à ce qui se passe en France ou en Europe.
Quand vous écrivez, vous écrivez d'où?
Moi, dans ma tête, de toute façon, j'écris presque, j'allais dire, en Côte d'Ivoire. Parce que, dans mon cas particulier, je suis née à Paris, mais à un an, je suis partie. Mon père a amené toute sa famille en Côte d'Ivoire, et ce n'est qu'au niveau de mes études supérieures que je suis venue à la Sorbonne à Paris. Donc, toute mon enfance, toutes mes années formatrices ont été en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment ma référence. Et c'est là que, on va dire, mon imaginaire se nourrit. Ceci dit, je connais très bien aussi la littérature française.
Et au niveau de la langue, de différentes des autres langues, vous les pratiquez évidemment aussi, l'ivoirien, enfin la langue.
Non, enfin justement, un des problèmes que nous avons, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons beaucoup de langues autochtones, et donc ça nous défavorise, parce que du coup le français a pris vraiment une importance très grande. Mais quand vous allez par exemple en Afrique du Nord, l'arabe et le français vraiment sont, j'allais dire, en compétition, mais il y a une coexistence quand même assez pacifique.
Vous évoquiez aussi, toujours sur cette question de la langue, le risque ou l'utilisation du français à des fins démagogiques par certains responsables politiques, un phénomène que vous aviez pu constater notamment en Côte d'Ivoire. Et vous disiez, si j'étais linguiste, je m'intéresserais à ce phénomène, l'utilisation du français à des fins démagogiques. Un nombre croissant d'hommes politiques utilisent le français de la rue pour parler au peuple, mais c'est une langue volontairement pervertie, dénaturée, dont l'objectif est l'endoctrinement idéologique. Une forme de patriotisme.
J'y crois toujours, oui. C'est le populisme. C'est arriver à trouver, à utiliser le langage de la rue pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Et effectivement, à ce moment-là, si vous touchez le plus grand nombre, vu que le niveau de français est assez bas, vous allez avoir tendance à utiliser le français de la rue, comme on l'appelle, pour pouvoir toucher le plus de personnes, et en particulier les jeunes.
Donc la langue peut être instrumentalisée à des
fins
politiques.
Absolument.
Ça, c'est peut-être le premier atelier que vous mettriez en place, si vous acceptiez cette main tendue, pour une francophonie offensive, agissante, comme vous dites. Quels seraient, pour vous, les sujets prioritaires à ouvrir pour réussir à porter cette cause de la francophonie qui vous est chère?
Je pense encore, pour revenir encore une fois, c'est améliorer le niveau de langue. Et c'est-à-dire vraiment se concentrer sur l'éducation, sur la formation, et c'est ça qui m'intéresse, et sur la cohabitation du français avec les autres langues nationales.
Ce sera le sujet notamment du déplacement demain d'Emmanuel Macron à Dakar. Il l'a aussi évoqué quand il était en Tunisie, Antoine Mercier.
Absolument, il a dit, l'enjeu c'est de lutter contre la monoculture. Il y a un grand poète marocain qui dit qu'avoir une seule langue, c'est comme de vivre dans une maison avec une seule fenêtre et de ne regarder continuellement le même paysage. Alors évidemment, là, il s'agit de ce que vous avez parlé sur la situation en Afrique du Nord. Entre l'arabe et le français, il y a vraiment deux ouvertures. Est-ce que cette notion d'ouverture par la langue vous paraît fondée, et est-ce que ça peut être l'un des angles, si je puis dire, de relance pour la francophonie?
Absolument.
Sous cet angle-là?
Oui, absolument. Je pense que si on arrive à trouver une cohabitation pacifique avec les autres langues nationales, je pense qu'on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer parce qu'il n'y aura plus cette idée de compétition, mais au contraire de collaboration.
Donc vous accepteriez peut-être éventuellement une proposition?
Mais elle a dit oui. On a fait passer le message, Antoine Mercier. La francophonie encore trop liée à la France. Vous l'évoquiez, Véronique Tadjo, moi j'ai toujours pas très bien compris concrètement comment faire pour en faire une cause commune.
Mais écoutez, on a plein de problèmes communs. Par exemple, celui de l'environnement, les crises écologiques que nous allons rencontrer. Lors de l'écriture de mon livre sur l'épidémie d'Ebola en 2014, cela m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de la collaboration internationale et sur le fait qu'il faut vraiment que nous soyons ensemble dans ces combats-là. Et le combat écologique est un combat universel. Nous savons les dangers qui menacent la planète. Et donc, on ne va pas se débarrasser d'une entité comme la francophonie aujourd'hui, au moment où on a le plus besoin.
Donc avant d'être un combat presque mathématique pour le nombre de locuteurs qu'il peut y avoir de français dans le monde aujourd'hui, pour vous, c'est d'abord un combat politique, celui de créer un espace de solidarité à travers la langue.
Absolument, absolument. Oui, ça doit être un espace de solidarité. Et ça ne marchera que si c'est un espace de solidarité.
Merci beaucoup, Véronique Tadjo, d'être venue autour de cette grande table. Viennent de nous rejoindre le médiateur de Radio France et la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. France Culture, il est 13h21.
La grande table, le rendez-vous du médiateur.
Et restez avec nous, Véronique Tadjo, si vous le souhaitez. On va parler de radio, la radio qui porte aussi la voix du français partout dans le monde. Place donc au rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France, Bruno Denès. Bonjour.
Bonjour Olivia Gesbert, bonjour à tous.
Au moment où France Culture a atteint un niveau historique en termes d'audience, notre chaîne continue d'innover avec le lancement prochain d'une fiction uniquement en podcast, ce qui étonne certains auditeurs. Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, va nous expliquer tout cela.
Eh oui, Sandrine Trainer, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, en effet, dans une dizaine de jours, vous lancez votre premier podcast natif de fiction. Alors d'abord, de quoi s'agit-il ?
Alors, quand vous me demandez de quoi il s'agit, vous me parlez du principe ou vous me parlez de ce que ça raconte ?
D'abord, le principe.
Alors, le principe, il est extrêmement simple. Il consiste au fond à ouvrir de nouveaux espaces de liberté de création à travers une nouvelle distribution qui s'est ouverte grâce à la technologie numérique, une nouvelle distribution du son autorisée grâce aux podcasts. Nos auditeurs connaissent bien nos podcasts qui sont les reprises des émissions et cette constitution d'une bibliothèque universelle permanente. Mais le podcast permet aussi de proposer sous des écritures tout à fait nouvelles, s'adressant à des publics qui, pour beaucoup, sont des publics nouveaux, qui ont de nouveaux usages, qui n'écoutent plus la radio à travers un transistor, mais qui écoutent la radio sur leur smartphone, pendant qu'ils se déplacent, quand ils vont voir des copains, dans le bus, dans le métro, dans le train, de leur proposer une autre forme de travail sur les programmes. Et donc là, en l'occurrence, nous l'avions déjà fait, je pense que nous allons en parler, mais nous le faisons pour la première fois avec l'appui de la SACD, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé, nous le faisons pour la première fois en matière de fiction radiophonique. C'est une fiction radiophonique.
Alors quelle histoire,
en podcast.
Quelle histoire alors, justement ?
Qui autour de cette table connaît le pastafarisme ? Ah bah voilà, évidemment, alors quand c'est moi qui me mets à poser les questions.
C'est une philosophie, non ?
Bah, c'est une sorte de nouvelle religion, c'est une religion loufoque qui a été inventée en 2005 par un jeune homme en Oregon pour se moquer des créationnistes américains. Ah. Ils ont créé le pastafarisme. Pastafarisme, c'est une religion où la divinité est un monstre en spaghetti volant. Et il s'agit d'un polar loufoque, parce que on utilise aussi la liberté que nous donne le podcast, liberté en termes de format, peu importe si ça fait 8 minutes ou 12 minutes. Nous utilisons cette liberté-là pour créer des séries feuilletonnantes, se lancer dans la série de fiction. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un polar totalement loufoque qui se passe dans les milieux du pastafarisme en France. Il y a des meurtres vous saurez tout à partir du 13 février, parce qu'une des particularités des podcasts, c'est qu'on peut les proposer aux auditeurs différemment. C'est-à-dire, le 13 février, nous allons proposer toute la série en une seule fois à nos amis internautes. Cela fera 10 fois 12 minutes et c'est complètement addictif. Donc, il faut que ce soit proposé comme ça.
Super. Alors, il y a quand même des auditeurs qui s'étonnent que vous lanciez donc de nouveaux produits qui semblent alléchants, comme le dit Élise, hors antenne. Mm-hmm. Vous êtes une radio. Bon, l'intérêt, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, ça concerne en effet plutôt, je veux dire, un jeune public différent de France Culture. C'est bien ça?
Ouais, d'abord, ce n'est pas interdit à ceux
France
qui
Culture,
sont un
radio,
tout petit peu moins jeunes. Et d'autre part, non. J'aurais tendance à répondre tout simplement que la radio, nous sommes une radio, mais nous sommes une radio en 2018. Et une radio en 2018,
ça n'est pas que
c'est une antenne hertzienne, voilà. Mais ce sont des antennes numériques, ce sont des propositions de podcasts, je veux dire 20 millions de podcasts par mois, c'est qu'on voit bien que cela répond à un usage, donc notre service public, nous l'exerçons à travers quantité aujourd'hui de supports.
Alors j'ai vu que ce serait en son binaural. On appelle ça aussi du son 3D. Je suppose qu'il faut un équipement spécial.
Non, il suffit d'avoir un casque. Justement, ce que vous ne percevez pas. Ah oui, n'importe quel casque, deux oreillettes dans les oreilles. Et en fait, ça vous donne le sentiment d'être au milieu de l'histoire. C'est très impressionnant, c'est très simple. Oui.
Ah d'accord, donc pour tout le monde. Alors, vous en parliez tout à l'heure, en effet, vous avez lancé votre premier podcast natif, c'était d'information, c'est super fail, en bon français, avec Guillaume Erner, ça marche, ça, vous l'avez lancé à la rentrée.
On l'a lancé à la rentrée. Alors,
donc on ne l'entend pas sur les ondes, c'est uniquement en podcast.
Voilà, c'est uniquement en podcast. En l'occurrence, si ça s'appelle Superfail, ce n'est pas du tout parce qu'on voudrait introduire de l'anglais sur les antennes, mais parce qu'en fait, cela s'appuie vraiment sur une réflexion qui est une réflexion menée aux États-Unis sur cette question de ce qu'ils appellent le fail, c'est-à-dire la nécessité, au fond, d'essayer des choses, de ne pas avoir peur de rater des choses pour réussir à trouver finalement la bonne voie de sortie qui va permettre de créer quelque chose de positif. En France, on a très peur de l'échec. Aux États-Unis, il y a en tout cas cette culture de l'innovation qui permet de prendre des risques, y compris de se tromper. Et donc, Guillaume Erner analyse des échecs. Là, les derniers, c'était le Vélib. C'était la tentative complètement dans un autre genre de Gallimard. La volonté de Gallimard, finalement retirée, publier les trois textes antisémites de Céline Dher. Pourquoi est-ce qu'on essaye quelque chose et pourquoi finalement le projet se transforme? Et est-ce que ça marche? Écoutez, ça marche aussi bien que les émissions du week-end. L'antenne. C'est un rythme hebdomadaire et c'est en train d'être tout à fait repéré.
Alors, les derniers chiffres qui marchent bien, là, c'est les derniers chiffres médiamétrie des audiences radio montrent que France Culture a atteint un record historique, 1 340 000 auditeurs chaque jour, 100 000 de plus en un an. Mmh. Et beaucoup d'auditeurs m'écrivent pour me dire qu'ils ont découvert une radio éclectique qui apprend beaucoup sur le monde, tout en étant abordable, qui laisse le temps à ses invités
de s'exprimer. Arrêtez, on va encore dire que vous êtes trop gentil avec nous.
Oui, mais je lis ce qui m'a été écrit, qui s'intéresse autant à la philosophie qu'à l'économie. C'est un peu ça, finalement, la recette, du nouveau France Culture.
Le nouveau France Culture,
une évolution permanente.
Oui, bien sûr. Mais c'est une radio qui continue à pousser dans toutes ses limites la qualité et l'approfondissement des sujets dont elle traite. Hein, et autour de cette table, vous le savez bien, vous l'incarnez, que ce soit en matière d'information, en matière de savoir, de création, d'idées. Ne pas avoir peur de faire toujours des choses plus exigeantes. Et c'est ça que le public, je pense, aujourd'hui attend et qui est la clé de notre succès, c'est que la radio est faite de manière aujourd'hui très très fluide, je pense très agréable. Nous avons développé un plaisir de l'écoute, mais au service d'une exigence dont notre invité est une parfaite incarnation.
Alors il y a aussi un chiffre qui m'a marqué, c'est que vous avez 205 000 auditeurs quotidiens de moins de 35 ans. Or très longtemps, France Culture a véhiculé une espèce de radio un peu d'image de radio vieillotte.
Donc là, vous êtes en train de rajeunir. Vous ne pouviez pas rester sympa trop longtemps. oui, effectivement, une des grandes marques de ces derniers temps, c'est que l'augmentation de l'audience se fait sur les 13-24 ans, auprès du public étudiant. C'est tout à fait en phase avec, du reste, les efforts que l'on fait, ce que l'on développe dans cette direction-là. Je pense que c'est très important, c'est une mission de service public. Si on ne parvient pas à renouveler les publics, d'où la question du numérique, d'où la question des podcasts, etc. Bon, on passe à côté d'une partie de notre mission de service public, oui.
Ok, bah merci beaucoup Sandrine Trainer.
Merci à vous.
Il a dit ok. C'est pas vrai. Véronique Tadjo, ok, on a le droit.
Bon, tout ça va. Très bien.
Puis bon, signalons quand même le rendez-vous. Donc le 13 février, c'est Hasta Dente, c'est ça, hein, le premier podcast natif de fiction.
Ouais. Merci. Tout beaucoup. Sur le pastafarisme.
Voilà.
Et les spaghettis. Merci Bruno Denès. Les auditeurs peuvent continuer à réagir et à vous écrire si vous le souhaitez aussi d'ailleurs sur votre site mediateur.radiofrance.fr. On vous retrouve dans deux semaines, le jeudi. Merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table. À Antoine, merci d'abord surtout qui m'a accompagné pour cet entretien. Rendez-vous demain avec Xavier Legrand pour son film Jusqu'à la garde et avec l'économiste Esther Duclos qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. À la préparation programmation, Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Chloé Leblon avec l'aide précieuse, très précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Théo Gomard. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture, bien sûr.